Toute cette semaine, On en parle vous propose de revenir sur cinq sujets présentés cette année pour en faire une sorte de service après-vente. On va simplement vérifier comment les services ou les conseils que nous vous présentons toute l'année sont suivis, reçus, appliqués, pratiqués dans la réalité. Et c'est vous, Muriel Mera, qui avez sélectionné cinq thèmes. On va commencer ce matin avec une série que Didier Bonvin nous a proposée cette année, les logiciels libres. 10 épisodes pour nous familiariser avec ces logiciels qui peuvent être utilisés, modifiés, redistribués sans restriction. Et Muriel, vous revenez sur le sujet via le témoignage d'un utilisateur.
Oui, un utilisateur lambda, j'ai envie de dire. À savoir quelqu'un comme vous et moi, pas plus geek que ça. Parce que, comme l'image qui colle à la peau de Linux, c'est l'image d'un système compliqué, utilisé par des initiés, ben ça m'intéressait de savoir si c'était vrai ou pas.
Mais avant de passer la parole à cet utilisateur, on va se remettre quelques concepts informatiques de base dans les oreilles, en réécoutant un extrait du premier épisode de la série de Didier Bonvin. Didier qui nous rappelle ce qu'est un système d'exploitation.
Un système d'exploitation, c'est donc le cerveau qui dirige votre ordinateur. La majorité de ces cerveaux tournent sous Windows ou Mac. Les systèmes libres comme Linux représentent encore une part infime du marché pour les particuliers. Et la réticence des utilisateurs peut se comprendre. Changer de système implique quand même un certain temps d'adaptation.
Alors, ceci étant posé, Lionel Bourdin, président de la Free IT Foundation, nous explique quels sont, malgré tout, les avantages à installer un système libre sur notre ordinateur.
Le premier avantage, c'est justement la réappropriation du numérique, du pouvoir sur son numérique. Cette liberté de pouvoir savoir ce que son ordinateur fait avec ses données et comment il va les exploiter. L'avantage du logiciel libre, sa première vertu, c'est qu'il soit ouvert, que le code source soit accessible. Ce qui donne le moyen à énormément d'acteurs de participer au développement et amène aujourd'hui, après une bonne décennie de développement depuis le début du troisième millénaire, des solutions très pointues qui répondent à des équivalences de ce que l'on trouve aujourd'hui dans le monde propriétaire.
Ok, maintenant reste à savoir s'il est si facile que ça d'installer Linux sur son ordinateur.
Oui, alors ça je peux vous certifier que non, puisque Didier Bonvin dans sa série Trucs de Geek que nous avions diffusé en été 2014 n'y était pas arrivé.
Mais du coup, il a remis ça pour sa série sur les logiciels libres, cette fois-ci en se faisant aider par une professionnelle, gestionnaire de projet à la Free IT Foundation. Mais là encore, ça n'a pas été tout seul.
Alors, on ne va pas vous mentir, c'est pas aussi simple que certains fans de Linux le clament. Ça n'a pas marché tout de suite. Même accompagné par une pro, on a d'abord essayé sur mon ordinateur. Ça n'a rien donné. On a ensuite essayé sur deux autres Macs sans succès. On a ensuite changé plusieurs fois de clé USB. Et enfin, miracle, sur le PC du patron, ça a enfin fonctionné.
Lionel Lourdin, vous êtes toujours avec nous, président donc de la Fondation pour les technologies libres. Ça n'est pas si simple que cela, finalement, d'installer Ubuntu. Il y a quelques ratés, on l'a vu avec les Macs. Comment on explique ça?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le support que l'on utilise pour mettre ce nouveau système d'exploitation, par exemple une clé USB. Et c'est que malheureusement, il y a des clés USB sur le marché dont la qualité n'est pas celle prétendue, ou du moins de mauvaise qualité, ce qui fait qu'on a des problèmes lors de l'installation. Donc il y a des petits problèmes de ce type-là. Si on est bien aiguillé sur le type de matériel à prendre ou qu'on prend une clé de qualité, et qu'on a conscience de l'ordinateur que l'on a et de sa capacité à recevoir Ubuntu, vous évitera bien sûr quelques problèmes.
Et puis alors, pour éviter tous ces problèmes ou ces désagréments, vous pouvez aussi faire comme Nicolas Guignard.
Nicolas Guignard, donc l'utilisateur lambda que vous avez rencontré.
Exactement. Lui, il y a environ 2 ans, il s'est acheté un ordinateur qui tournait déjà sur Linux.
Il va s'allumer super vite parce qu'il est en veille, parce que pour gagner un peu de temps, je ne l'éteins pas.
C'est pas très différent que si on ouvre un PC qui tourne sur Windows ou un Mac.
Donc effectivement, plein de fenêtres ouvertes.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des icônes, il y a Skype, il y a Firefox,
il y a plein de choses connues. Hein. C'est Linux, mais vous reconnaissez Thunderbird, vous reconnaissez Skype, Firefox. Il y a 2-3 trucs un peu différents, mais globalement, ça ressemble à ce que vous connaissez, hein, c'est clair.
Ça, ce sont des logiciels libres.
Alors Skype, je pense qu'il peut vraiment dire qu'il est libre. En tout cas, il est gratuit. Et puis Firefox, effectivement. Alors là, c'est vraiment un bel exemple de logiciel libre que beaucoup de gens utilisent, même sous Windows et sous Apple. Il existe, il est libre, mais il existe pour les différents systèmes. Thunderbird, pareil, il est très répandu.
Thunderbird, ça sert à quoi,
Thunderbird,
juste?
C'est pour la messagerie.
Ah oui, puis c'est vrai que votre boîte mail, elle ressemble furieusement à Outlook. Hein.
Mais c'est vrai que j'en ai pas dépaysé. Et puis bon, moi, pour ma part, j'utilisais déjà Thunderbird avant sous Windows.
Mais alors, Nicolas Guignard, pourquoi est-ce que vous avez configuré votre ordinateur avec un système d'exploitation libre, Linux, puisqu'il y a des applications que vous pouvez utiliser avec un système d'exploitation, j'ai envie de dire, traditionnel, enfin marchand?
premièrement parce que j'aime bien le concept de logiciel libre et de travail coopératif. Ces logiciels libres, c'est des communautés qui travaillent dessus. Il n'y a pas un but forcément commercial, même si certains logiciels libres ne sont pas forcément tous gratuits. Hein, ce n'est pas forcément la même chose. Mais là, c'est fait de manière coopérative. Donc la démarche est vraiment bien. Et puis, il y a le côté mise à jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'incompatibilité d'une version à l'autre, où tout d'un coup, votre ordinateur ne fonctionnera plus avec la nouvelle version, comme c'est le cas avec Windows récemment, il y a eu pas mal d'histoires.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent changer d'ordinateur parce qu'ils sont plus assez puissants, ou ils sont plus compatibles avec les nouvelles versions des systèmes d'exploitation?
C'est une forme d'obsolescence programmée, que la nouvelle mise à jour, qui est obligatoire parce qu'il n'y a plus de support de l'ancienne version, la nouvelle mise à jour ne sera pas compatible avec votre carte graphique, ou avec simplement toute la machine, ou alors effectivement, la machine ne sera pas assez puissante parce que la nouvelle version est beaucoup plus lourde. Et donc, vous êtes obligé de changer de machine, alors qu'elle allait encore très bien. Moi, je suis très sensible aux questions écologiques. D'un point de vue écologique, c'est assez inacceptable de se dire qu'il faut jeter une machine qui fonctionne encore simplement parce que la nouvelle version du système ne tourne pas sur cette machine.
Est-ce qu'il veut dire, alors que Linux, il n'y a jamais d'amélioration du système ou il n'y a jamais de mise à jour à faire?
Alors, si, bien sûr, il y a des mises à jour, il y en a même pas mal, comme un peu partout, mais elles vont toujours avoir une compatibilité avec les versions précédentes. Donc, il n'y aura pas de cas où ce sera plus compatible. C'est-à-dire que sur une vieille machine, vous pourrez encore faire tourner une version de Linux, parce que bon, Linux est déjà plus léger, et puis effectivement il n'y a pas cette manière de faire, de rendre les choses un petit peu artificiellement incompatibles. J'avais un obstacle pour passer de Windows à Linux, c'est que j'utilise dans mon travail un logiciel qui s'appelle FileMaker.
On peut aller le voir là.
Qui est ici, qui existe sous Windows et sous Apple, mais qui n'existe pas sous Linux.
Parce que donc là, ce FileMaker Pro, ça sert à quoi?
Voilà, c'est une base de données. Et mon problème, c'est que FileMaker n'existant pas sous Linux, j'étais un peu obligé de rester sous Windows à cause de ça. Et puis un jour, j'ai découvert effectivement qu'il existe sous Linux un petit, je sais pas si c'est un logiciel, enfin une espèce d'interface, un simulateur de Windows en fait, qui s'appelle Wine, que j'ai installé. Et maintenant, je peux, grâce à ça, à travers Wine, utiliser FileMaker sous Linux. Donc là, vous voyez mon ordinateur, j'ai ouvert ma base FileMaker avec mes différents articles, mais je suis derrière sur un bureau Linux. Après, il faut quand même avoir la licence. Là, moi, FileMaker, j'ai effectivement la licence que j'ai achetée. J'entends, c'est pas un logiciel libre, donc à la limite, si je voulais être dans l'esprit libre à 100%, je trouverais une base de données équivalente en libre, et puis je convertirais toute ma base, etc. Mais ça va me prendre un temps fou. Pour l'instant, j'ai pas le temps de le faire.
Mais vous pourriez trouver un équivalent en logiciel libre?
Je sais pas. J'ai cherché un petit peu. Évidemment, des systèmes de base de données, il en existe tout plein. Le problème, c'est que là, la base telle qu'elle est là, c'est moi qui l'ai faite vraiment pour correspondre à mes besoins. Donc il faudrait que j'apprenne à utiliser une autre base de données libre et que je refasse exactement tout ce que j'ai fait, de créer un fichier adresse, un fichier facture, un fichier comptabilité, un fichier stock, etc. Faire les liens, les scripts et les machins. Voilà, ça me prendrait beaucoup de temps. La base que j'ai là existe, je l'ai depuis une dizaine d'années. Donc
c'est ça, c'est que si on veut être puriste et aller jusqu'au bout et passer entièrement à du libre, ça demande quand même un investissement en temps, enfin ça demande quand même du boulot, quoi.
Ça dépend des besoins et de la configuration que vous avez. Pour le reste, j'ai absolument aucun problème.
Mais parce que pour le reste, c'est quelle utilisation?
Pour le reste, moi, j'organise un festival qui s'appelle le Festival du Film Vert. Pour cette activité-là, par exemple, j'ai besoin d'un tableur. Et là, il existe, avec LibreOffice, un tableur qui s'appelle Calc, qui ressemble énormément à Microsoft Excel, qui est d'ailleurs compatible avec et qui est libre. Voilà, je vous ouvre ici un tableau.
Vous avez tout de suite su l'utiliser. Vous n'avez dû aller prendre des
vraiment,
cours non, pour utiliser
vraiment,
certains logiciels.
C'est vraiment très proche. À la limite, il y a autant de différences entre ça et la version actuelle de Microsoft Excel qu'entre une version et une autre. Quand vous passez à la version suivante, il y a toujours des petits trucs qui changent, des arrangements, des nouvelles fonctionnalités, des choses qui ne sont pas rangées au même endroit. Effectivement, là, c'est un peu la même chose. Il y a des petites questions d'interface. Mais la logique de base et même la plupart des formules que vous pouvez faire, ça correspond à la limite à ce que j'ai appris à l'école il y a 20 ans. La base n'a pas changé, quoi.
Et ça, c'est pareil pour tous les logiciels que vous utilisez, là, sur Linux. Par exemple, si on prend l'équivalent de Word, par exemple.
Là, vous voyez... alors, c'est toujours LibreOffice. C'est comme Microsoft Office, mais ça s'appelle LibreOffice. Et il y a une partie texte. Voilà, vous voyez, ça, c'est mon dossier de présentation, toujours pour mon festival, mais qui est aussi en .doc, ou .docx à la limite, comme ça il est vraiment compatible. Il y a même un suivi de modification de quelques quelqu'un qui l'a fait sous Windows, probablement qui me l'a renvoyé, donc on peut vraiment partager des fichiers.
Donc vous pouvez envoyer des documents que vous préparez sur ce logiciel à des gens qui ont Windows, à des gens qui ont Mac, il n'y a aucun problème de lecture.
Si j'enregistre dans le format libre qui est ODT, quelqu'un qui est sous Microsoft Office n'arrivera pas à le lire. Par contre, je peux enregistrer sous et choisir le format bien connu, .doc, ou mieux .docx, qui est le format un peu multiple comme ça. Et alors là, tout le monde pourra lire et modifier et voir mon fichier.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir des soucis d'utilisation ? Parce que voilà, moi, quand ça m'arrive, je sais que je peux appeler un informaticien qui est spécialiste du système que j'utilise et il va m'aider. Vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste ?
J'ai des besoins franchement assez basiques, donc pour l'instant j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de panne ou de difficulté comme ça. Après, il y a une forte communauté d'utilisateurs, de fans qui donnent un support qui est assez important aussi.
Vous faites appel à eux parfois?
J'ai eu un problème avec je sais plus quel programme, avec FileMaker. Voilà, j'avais cherché comment faire pour émuler ça, et puis je suis allé voir les forums qui disaient oui, il y a Wine qui est bien, ça marche avec telle version.
Mais ça, c'est pareil sur des logiciels pas libres.
De manière générale, c'est quand même et même effectivement, comme vous dites, pour des programmes pas libres non plus. Il y a de toute façon toujours des communautés d'utilisateurs. C'est souvent assez intéressant d'aller regarder là avant de téléphoner à un support quelconque. Je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre, de chercher soi-même et de trouver la solution soi-même. C'est des fois une meilleure façon d'apprendre que de juste poser la question et puis d'appliquer une réponse à la lettre qu'on n'aura même pas forcément comprise finalement.
Mais vous, donc, de chercher par vous-même, est-ce que c'est plus fréquent maintenant que vous êtes sur Linux, ou de toute façon, déjà avant, vous faisiez appel au forum, vous regardiez, ou est-ce que vous avez acquis des compétences, on va dire, informatiques, ou que vous n'aviez pas avant ?
Non, je crois pas que j'ai vraiment acquis des nouvelles compétences en informatique, parce que justement, par rapport à Linux, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait peur, c'est le terminal. Mais ça existe aussi, c'est comme le DOS sous Windows, c'est là que vous pouvez entrer des lignes de commande pour installer des machins, etc. Moi, ça m'a toujours fait peur, je vais pas là-dedans. Mais en fait, j'ai pas besoin d'y aller.
Et vous pensiez que vous auriez
besoin. C'était la crainte, voilà, et c'est peut-être la crainte de beaucoup de gens justement qui s'imaginent devoir faire des lignes de commande et des machins. Mais comme utilisateur de Linux, il n'y a pas besoin de savoir passer des lignes de commande dans le terminal. Et ça, c'est quand même important de casser l'idée reçue qu'il faut savoir faire la programmation pour avoir un ordinateur Linux.
Message reçu, c'était donc Nicolas Guignard, utilisateur de Linux. Mais vous confirmez, Muriel, ça a vraiment l'air simple d'utiliser Ubuntu ou Linux ?
Alors moi, c'était la première fois que je voyais un ordinateur tourner sur Ubuntu ou Linux. Et sincèrement, ça ne m'a pas paru très compliqué. Je me suis même dit que le jour où j'aurais besoin de changer d'ordinateur, peut-être que j'en achèterais un équipé avec Ubuntu.
Oui, c'est ça. C'est qu'on peut acheter effectivement un ordinateur neuf avec un système d'exploitation libre, c'est bien ça.
Oui, alors ça c'est possible. À Lausanne, par exemple, il y a une société qui vend des ordinateurs neufs de la marque Y, qui sont configurés comme ça. Et Dell, marque beaucoup plus connue pour le coup, vend aussi certains de ces ordinateurs neufs avec Ubuntu. Et autrement, aussi il y a la solution d'acheter un ordinateur d'occasion qui tourne avec Ubuntu. Vous en trouvez par exemple à Itopi, une association basée à Genève.
Merci Muriel, on a mis quelques liens sur notre site à ce sujet, et ce que je retiens de tout ça, c'est que si vous êtes prête, Muriel, à passer à Linux, c'est que ça doit vraiment pas être compliqué à utiliser, sans vouloir vous offenser du reste.
Vous ne m'offensez pas, c'est juste la triste réalité.